Et on va accueillir comme il se doit Michel, comme chaque mois, Michel Favret. Bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël.
Chronique Astro numéro 22, hein.
Déjà, oui.
Comme deux équipes de football, comme dirait Michel, hein.
Exactement, on en reparlera à la fin.
On en reparlera. Alors, Michel, eh ben, on va rentrer, on va rappeler Constellation et Galaxie, mais on en redira quelques mots, hein. Parce que là, c'est vrai que y a une belle rubrique encore, et puis, je crois qu'il y a du gazouillis dans l'air.
Oui, on en reparlera tout à l'heure.
On en parlera, mais voilà,
Donc,
vous allez voir, il y a plein de surprises.
l'association Constellation et Galaxie, donc basée en Dordogne, hein, je viens spécialement à Eau de Radio tous les mois. C'est une petite constellation par la, petite pardon, association par la taille,
Mais
mais
le lapsus était joli, hein.
qui a une activité dans toute la région, hein, c'est-à-dire bien au-delà de la Dordogne, le nord de la Gironde et les départements voisins, dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans l'astronomie, avec un planétarium itinérant qui toute l'année scolaire va dans des écoles, des collèges, des lycées. Et maintenant qu'on arrive en été, ce seront plutôt des centres de loisirs ou de vacances qui vont nous accueillir.
Très bien, on en redira quelques mots à la fin, bien sûr, et puis on rappellera le site. Alors, Chronique Astro numéro 22, vous allez rentrer tout de suite dans l'actu, hein.
Oui, avec la sonde Juno. On croise les doigts parce que lundi, la NASA se prépare à une opération très délicate, la mise en orbite de la sonde Juno autour de Jupiter. On notera au passage, même si c'est sans doute un peu fortuit après des années de trajet, que ça tombe pile le 4 juillet, c'est-à-dire le fameux Independence Day, la fête nationale américaine. Pour faire rapidement la carte d'identité de Juno, on peut dire que c'est un gros bébé, hein, parce qu'elle fait 4,50 m de haut, elle a une forme vaguement cylindrique, elle est équipée de panneaux solaires qui lui donnent une envergure totale de 20 mètres, et elle pèse dans les 3 tonnes et demie. Elle a été lancée de Cap Canaveral le 5 août 2011, et il lui aura fallu donc presque 5 ans pour atteindre Jupiter, hein. J'avais déjà eu l'occasion ici de parler des trajets vers les planètes qui sont très longs. Il est prévu qu'elle reste 2 ans, ce qui devrait correspondre à 37 orbites polaires complètes autour de cette planète, c'est-à-dire une orbite qui lui permet de survoler les pôles. Ensuite, elle sera précipitée sur Jupiter. C'est une précaution pour éviter de contaminer un jour le satellite Europe, où on a espoir de peut-être découvrir de la vie un jour, et ce serait ballot qu'on y trouve des bactéries terriennes qui auraient été apportées par une de nos propres sondes. Alors les auditeurs peuvent se demander ce qu'il y a de si extraordinaire à mettre une sonde en orbite autour de Jupiter, car on l'a déjà fait plusieurs fois. Eh bien le challenge vient justement de l'orbite choisie, qui est très elliptique, donc un ovale très allongé, dont le périastre, c'est-à-dire le point le plus proche de Jupiter, se situe à seulement 5 000 km de la planète, beaucoup plus près que toutes les sondes précédentes. On pourrait dire qu'on frôle presque la planète. Et quelle planète, hein? Je rappelle que c'est une géante de plus de 1 000 fois le volume de la Terre, 300 fois sa masse, et qui tourne pourtant sur elle-même en seulement 9 heures. Donc tous les phénomènes y sont poussés à des niveaux extrêmes, hein, la gravité, les vents et les cyclones de l'atmosphère, mais aussi son champ magnétique est très intense, surtout dans les régions des pôles. Juno a donc été spécialement construite pour résister à ce milieu très hostile. De plus, lors de la manœuvre, elle devra traverser les anneaux de Jupiter, qui, bien que beaucoup moins grandioses que ceux de Saturne, n'en constituent pas moins une zone encombrée de cailloux gelés, avec un risque de collision non négligeable. Si la mise en orbite de Juno réussit lundi, elle étudiera principalement la gravité de Jupiter, son atmosphère et son champ magnétique. Donc, croisons les doigts pour que tout se passe bien lundi pour les Yankees et que la mission ne se termine pas prématurément dans un beau feu d'artifice du 4 juillet à environ 500 millions de dollars.
Alors, on va reparler, vous allez nous reparler des ondes gravitationnelles à nouveau.
Oui, alors effectivement, j'ai déjà abordé le sujet à 2 reprises ici. La dernière fois, c'était en février, alors que les chercheurs américains du LIGO venaient d'annoncer la toute première détection d'une telle onde le 14 septembre 2015. Presque pile un siècle après la publication de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui prédisait leur existence. Je rappelle que ces détecteurs sont très grands, avec des bras perpendiculaires de 4 km de longueur, dans lesquels circule un rayon laser permettant de mesurer des infimes variations de longueur, ce qui permet de détecter le passage de l'onde, qui est une déformation de l'espace. Pour donner une idée de la sensibilité de ces capteurs, un astrophysicien nous a donné la comparaison suivante. Ce serait comme mesurer la distance Terre-Lune avec une précision correspondant à la taille d'un atome seulement. C'est d'ailleurs suite à une amélioration de la sensibilité de LIGO que la détection avait eu lieu après seulement quelques jours de fonctionnement. Eh bien, le 15 juin, ils ont remis ça en annonçant une autre découverte faite le 26 décembre dernier. Alors, le délai entre la détection et l'annonce s'explique par le fait qu'il faut faire de nombreuses vérifications pour être sûr qu'il n'y a aucun doute que c'est bien une onde gravitationnelle qu'on a détectée. Dans les deux cas, la forme de la vibration observée est caractéristique, car en moins d'une seconde, elle augmente aussi bien en amplitude qu'en fréquence. Les experts disent que c'est un gazouillis. Et grâce à la régie, on va pouvoir entendre ce son. Voilà, c'est bref, hein, ça dure 1 seconde, on peut peut-être le faire 2 fois.
C'est ce que j'allais dire. Allez, on va en mettre une couche, allez.
Voilà. Alors, bien sûr, ça n'est pas un son qu'on a détecté, c'est une onde gravitationnelle, donc une déformation de l'espace, mais la forme de l'onde a été convertie en son pour qu'on puisse l'entendre. Hein. Donc, cette forme particulière est prédite par les simulations numériques et correspond à la fusion, les savants disent coalescence, de deux trous noirs. En effet, seuls des phénomènes dégageant une énergie gigantesque peuvent produire ces ondes détectables à des distances énormes. Dans les deux cas, elles viennent de plus de 1 milliard d'années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que l'événement détecté sur Terre il y a quelques mois s'est produit en réalité il y a plus d'un milliard d'années. À l'époque, je rappelle que la Terre n'était peuplée que des premiers organismes multicellulaires dans l'histoire de l'évolution. La multiplication de ces détections pose de nouvelles questions aux astronomes, car comme toute découverte révolutionnaire, avant, on n'était pas sûr qu'il puisse exister deux trous noirs en rotation l'un autour de l'autre et qui puissent se rapprocher jusqu'à fusionner. Et comme par miracle, les deux premières détections, en l'espace de seulement quelques semaines, sont de ce type. On se demande donc si cette situation n'est pas beaucoup plus fréquente qu'on le pensait, et certains vont jusqu'à penser que cela pourrait prouver qu'il y a beaucoup plus de trous noirs dans les galaxies que ce qu'on croyait. À la limite, cela pourrait même, au moins en partie, être une explication de la fameuse matière noire qu'on cherche en vain depuis des décennies. Cette notion correspond au fait que les mesures des rotations des galaxies démontrent qu'elles sont nettement plus massives que la matière qu'on y voit, c'est-à-dire les étoiles et le gaz interstellaire qui nous envoient de la lumière. D'où l'idée qu'il devait y avoir une matière sombre, donc invisible, pour expliquer cette masse supplémentaire. Et s'il y a bien plus de trous noirs et plus massifs que prévu, cela pourrait expliquer au moins en partie cette masse invisible. Car rappelons-le, un trou noir n'émet aucune lumière, donc il est totalement invisible pour les télescopes. L'autre conséquence de ces détections d'ondes gravitationnelles, c'est la possibilité d'une nouvelle sorte d'astronomie basée sur ces ondes et non plus sur la lumière. Certains astrophysiciens disent que jusque-là, avec nos télescopes, on avait des images sans le son, et qu'avec ces nouveaux détecteurs, on a enfin le son. Alors je mets en garde les auditeurs contre les limites de genre de comparaison, ou ce qu'on a fait entendre tout à l'heure, les ondes gravitationnelles n'ont rien à voir avec du son. Il s'agit en fait d'une déformation de l'espace qui se propage. Et du coup, cela relance la course à la mise en service de nouveaux détecteurs, par exemple dans l'espace, comme LISA.
Oui, vous en avez déjà parlé, du satellite LISA, ou LISA, si on mettait l'accent.
LISA, voilà. C'était pendant la chronique de fin novembre 2015, qui pour une fois avait été décalée au 2 décembre, qui tombait pile le jour du lancement du satellite LISA, donc pour vous faire plaisir, de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Le but de ce petit satellite, il fait quand même dans les 2 tonnes, était justement de tester un système de mesure très précis qui pourrait être utilisé dans le futur projet ELISA, donc Extended LISA, prévu pour les années 2030 avec un dispositif de détection d'ondes gravitationnelles comprenant 3 satellites éloignés de 1 million de kilomètres les uns des autres. Les auditeurs se souviennent peut-être que lorsque j'avais parlé du détecteur LIGO de seulement 4 kilomètres, j'avais expliqué que plus le détecteur est long, plus il est sensible. C'est très simple à comprendre. Il est plus facile de mesurer une petite variation de longueur sur une règle de 10 mètres, où 1% représente 10 cm, que sur un double décimètre, où 1%, ça fait que 2 mm. Eh bien, on a eu des nouvelles de LISA. Après 2 mois de test, l'ESA a annoncé que les mesures montrent une précision 5 fois plus grande que ce qu'on avait prévu. On est donc rassuré sur la faisabilité du futur ELISA, qui aura donc peut-être une sensibilité supérieure aux attentes, ce qui permettrait de détecter des ondes gravitationnelles provenant de phénomènes beaucoup moins énergétiques que ceux vus par LIGO. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle forme d'astronomie, complémentaire de celle basée sur la lumière. Et c'est par rapport à ces actualités sur les trous noirs que j'ai choisi le thème de ce mois, vie et mort des étoiles.
Voilà, justement, donc toujours dans le cadre de votre chronique, Michel Favre, donc quel rapport avec les trous noirs, justement?
Alors, pour certains d'entre eux, pas les très gros qui sont au centre des galaxies, mais des plus petits, les trous noirs sont probablement des cadavres d'étoiles. Mais avant d'en arriver à la fin, on va peut-être commencer par le début. Comment se forment les étoiles?
Ben justement, comment naissent les étoiles, Michel?
Alors, quand on observe les galaxies dans un petit télescope, c'est plutôt au printemps ou en automne que c'est adapté, la lumière diffuse que l'on aperçoit, celle de milliards d'étoiles qu'elles contiennent. Mais dans une galaxie, il y a aussi beaucoup de gaz et de poussière. Et l'on peut s'en rendre compte en été quand la Voie lactée, notre propre galaxie, qui contient le Soleil et toutes les étoiles qu'on peut voir dans le ciel, commence à se redresser de l'horizon site jusque vers le zénith. On peut alors braquer les lunettes et télescopes vers des nébuleuses, énormes nuages de gaz et de poussière qui sont le plus souvent éclairés par des étoiles voisines ou même situées à l'intérieur des nébuleuses. Elles ont souvent des dimensions énormes, de plusieurs années-lumière ou dizaines d'années-lumière, c'est-à-dire que la lumière mettrait des années ou des dizaines d'années pour les traverser, malgré sa vitesse vertigineuse, qui, pour le rappeler aux auditeurs, permet d'aller de la Lune à la Terre en environ 1 seconde à la lumière, ou de nous provenir du Soleil en un peu plus de 8 minutes. On peut se demander d'où vient ce gaz. Dans le modèle d'évolution de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, tout l'univers était au départ comprimé dans un volume très petit et donc très dense et très chaud, avant de se dilater énormément par ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, jusqu'à atteindre sa taille et sa structure actuelle. Il y a eu dans cette évolution une période où l'univers était assez refroidi et dilaté pour que les premiers éléments puissent apparaître. Et la théorie prévoit que ce sont seulement les plus simples et légers qui se sont formés, surtout l'hydrogène et un peu d'hélium. Et les premières étoiles se sont formées avec ces seuls éléments. Mais comme on le verra bientôt, elles ont fabriqué d'autres éléments plus lourds et de plus en plus au fur et à mesure que des générations d'étoiles se sont succédées. Si bien qu'aujourd'hui, les nuages interstellaires, même s'ils sont toujours principalement constitués d'hydrogène, contiennent aussi un peu de tous les autres éléments, y compris constitués en molécules plus complexes et parfois regroupés dans des petits grains de poussière. On peut se représenter ces grains comme des grains de carbone très fins, une sorte de suie, à la surface desquels sont accrochées d'autres molécules, par exemple de l'eau sous forme de glace.
Alors, quel est le rapport entre ces nébuleuses et la naissance des étoiles ?
Alors parfois, on pourrait dire presque par accident, une partie du nuage devient plus dense. On pense que cela peut être dû à différents phénomènes comme les mouvements de la galaxie ou des explosions très violentes qu'on appelle des supernovae, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Cette partie plus dense du nuage, un peu comme un grumeau, hein, si je peux m'exprimer comme ça, possède une force d'attraction plus forte et le nuage va lentement se comprimer progressivement autour de ce grumeau. En se comprimant, la température monte aussi, comme on le sait tous, par exemple en utilisant une pompe à vélo. En comprimant l'air pour gonfler un pneu, on sent bien que la pompe s'échauffe. Progressivement, on peut atteindre au centre de la nébuleuse une densité et une température suffisantes pour que des réactions de fusion nucléaire commencent. C'est l'étoile qui vient de s'allumer. Même si elle regroupe à elle seule la plus grande partie du nuage, hein, pour le Soleil c'est 99,98% de toute la matière qu'il y avait au départ, il ne faut pas oublier les petits résidus qui tournent autour et qui formeront éventuellement des planètes autour de l'étoile. Il faut comprendre qu'en se comprimant, le nuage s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme les patineurs sur glace quand ils referment leurs bras. Et tournant plus vite, il s'est aplati, comme la pâte à pizza que le pizzaiolo lance en tournant pour l'affiner. C'est donc un disque qui tourne autour de l'étoile, ce qui explique que les planètes de notre système solaire tournent tout à peu près dans le même plan et dans le même sens. Avec les plus gros télescopes, on a pu observer ce type de disque autour d'étoiles très jeunes, avec des cercles presque vides, où l'on pense que des planètes sont en train de se former en absorbant la matière disponible, d'où les vides dans le disque.
Mais que devient l'étoile ensuite alors ?
Alors pendant des millions ou des milliards d'années, elle fonctionne en équilibre entre la gravité qui aurait tendance à la faire se comprimer et la poussée de l'énergie créée en son centre par les réactions nucléaires qui auraient tendance à la faire se dilater. Cet équilibre dure plus ou moins longtemps selon la taille de l'étoile. Bizarrement, les étoiles petites durent bien plus longtemps que les grosses, qui ont pourtant une réserve de matière bien plus grande au départ. Mais c'est un peu comme si ces grosses étoiles étaient en sur-régime, car la pression et la température en leur cœur sont bien plus fortes, ce qui les fait consommer plus rapidement leur carburant, si on peut dire comme ça. Par exemple, dans le ciel de l'hiver, on peut voir facilement le groupe des Pléiades dans la constellation du Taureau, qui sont légèrement bleutées, car jaunes et très chaudes. Ce sont presque des bébés étoiles qui n'ont environ que 100 millions d'années. Pour comparer, notre Soleil a un âge mûr avec 4 milliards et demi d'années. Donc si on prend le Soleil à 45 ans, pour comparer avec une vie humaine, ces bébés étoiles, les Pléiades, n'ont que 1 an. Comme elles sont très grosses, dans les 10 fois le diamètre du Soleil, elles ne dureront pas très longtemps, quelques centaines de millions d'années. Alors que notre Soleil, plus petit, plus économe, n'en est à peu près qu'à la moitié de sa vie et durera au total dans les 9 à 10 milliards d'années. Cette durée du Soleil est une chance pour nous, parce qu'elle a sans doute laissé le temps à la vie d'apparaître dans le système solaire, ce qui est un processus, on le pense, assez lent.
Alors comment finit une étoile ?
Alors une étoile relativement jeune comme le Soleil convertit par fusion nucléaire son hydrogène en hélium. Mais quand il aura accumulé beaucoup d'hélium dans son cœur, il commencera à le fusionner dans des éléments plus lourds, comme le carbone par exemple. Et au fur et à mesure de leur vieillissement, les étoiles démarrent des réactions conduisant à des éléments de plus en plus lourds, éventuellement jusqu'au fer. Et c'est comme ça qu'Hubert Reeves peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles, c'est une phrase célèbre, car par exemple le fer qui est dans nos globules rouges provient d'étoiles qui ont brillé bien avant le Soleil, et tous les éléments lourds qui composent notre planète Terre aussi. La façon dont tout ça se termine dépend beaucoup de la taille de l'étoile. Pour une relativement petite comme le Soleil, la mort est assez douce. Avec les réactions plus énergétiques liées à l'hélium, accumulé dans son cœur, son équilibre se rompt et elle commence à se dilater. Donc sa surface extérieure refroidit et elle devient une géante rouge. On pense que le Soleil à ce stade se dilatera tellement qu'il absorbera Mercure, Vénus, la Terre et peut-être même jusqu'à Mars. En ce moment, dans le ciel, on peut voir facilement Mars au sud en soirée, bien brillante et légèrement rogée. Et juste à sa gauche, donc vers l'est, à environ la largeur d'une main bras tendu, une étoile brillante ayant pratiquement la même couleur. C'est la géante rouge Antares, dont le nom signifie l'autre Mars en raison de sa couleur. Cette dilatation et refroidissement des couches extérieures va se poursuivre jusqu'à former une grande nébuleuse qu'on appelle planétaire, car leurs formes rondes dans les petits télescopes les font ressembler à des planètes. Et ces nébuleuses donneront un jour naissance à de nouvelles étoiles. Le cœur de l'étoile, lui, très petit et très chaud, est ce qu'on appelle une naine blanche, et elle mettra des milliards d'années à s'éteindre très lentement.
Et si l'étoile est plus grosse ?
Alors, si elle est bien plus grosse que notre Soleil, on dit généralement plus de 10 fois la masse du Soleil, sa mort est beaucoup plus violente. Ayant une gravité plus forte pour contenir les réactions nucléaires de son cœur, elle va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les éléments lourds produits, jusqu'au fer, qui est la limite ultime, car aucune étoile ne peut être assez chaude et massive pour atteindre les conditions de fusion du fer. Donc la production de fer dans son cœur va stopper la suite des réactions, ce qui détruit aussi l'équilibre de l'étoile, mais dans l'autre sens, c'est la gravité qui va l'emporter, et l'étoile implose. Ses couches extérieures se précipitant vers son noyau de fer, elles rebondissent en produisant une énorme onde de choc qui va faire exploser l'étoile complètement. C'est ce qu'on appelle une supernova. Paradoxalement, cette onde de choc va permettre la création d'éléments plus lourds que le fer, comme l'uranium par exemple. L'explosion est tellement violente que pendant quelques minutes, l'étoile brille comme des milliards d'étoiles, ce qui nous la rend visible dans nos télescopes, même quand elle se produit dans une galaxie très lointaine. Les couches extérieures vont donc produire une nébuleuse, mais pas gentiment ronde, hein, si je peux dire, comme on l'a vu avant avec les étoiles plus petites. Ce sont des nuages qui sont chaotiques, aux formes bizarres et torturées. On peut en observer une en hiver dans le Taureau, la nébuleuse du Crabe, qui correspond à une supernova vue en juillet 1054. Elle était tellement brillante que pendant 15 jours, on la voyait dans le ciel en plein jour.
Et les trous noirs dans tout ça ?
Alors, on va revenir effectivement à cette histoire de trous noirs. Il faut penser au noyau de la supernova qui est soumis pendant l'explosion à une compression énorme, au point que toutes ces particules entrent en contact pour ne produire plus que des neutrons, d'où le nom d'étoile à neutrons. C'est un objet incroyablement dense. Il faut imaginer que 1,5 à 3 fois la masse du Soleil se trouve comprimée dans une boule de seulement 10 à 20 km de diamètre. Je rappelle que le Soleil, lui, fait dans les 1,5 million de kilomètres de diamètre. La matière dans une étoile à neutrons atteint une densité folle. C'est à peu près 1 milliard de tonnes pour seulement 1 cm cube. Mais si l'étoile est encore plus massive, on dit plus de 12 masses solaires, la compression du cœur est encore plus grande, au point qu'aucune forme de matière ne peut plus y résister, et ça va donner naissance à une autre forme de monstre, le trou noir. On les appelle ainsi parce que leur champ de gravité est tel que même la lumière ne peut pas s'en échapper, donc ils sont totalement noirs et invisibles. Pour donner une idée de l'échelle, pour transformer le Soleil en trou noir, il faudrait que toute sa masse soit comprimée dans une boule de seulement 3 km de diamètre. Et c'est comme ça qu'on a peut-être de nombreux trous noirs dans notre galaxie, pas faciles à détecter puisqu'ils n'émettent pas de lumière, mais provoquent parfois des phénomènes tellement énergétiques, par exemple quand ils fusionnent ou quand ils attirent à eux une naine blanche, qu'ils peuvent produire des ondes gravitationnelles que nous pourrons petit à petit de mieux en mieux détecter avec la nouvelle astronomie que nous voyons débuter en ce moment.
Allez, troisième partie de votre chronique, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois, et pour commencer, la voûte céleste et les constellations, quelques infos.
Voilà, depuis le 22 juin, les jours diminuent lentement, mais la nuit noire survient toujours tard, hein. C'est vers 11h15, hein, 23h15 en ce moment, et ce sera une demi-heure plus tôt vers la fin juillet. Au début de nuit, on peut observer le ciel typique de l'été avec trois étoiles brillantes formant un grand triangle, qu'on appelle le triangle de l'été, qui se présente une pointe en bas, c'est l'étoile Altaïr de l'Aigle, les deux autres étant Vega de la Lyre, la plus brillante des trois, et la dernière Deneb du Cygne, une énorme étoile 200 fois le diamètre du Soleil, mais située très loin de nous. Pour connaître le dessin de ces trois constellations, hein, comme d'habitude, je renverrai les auditeurs plutôt sur les cartes disponibles dans notre site web. Hein, je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Il y a la partie planétarium pour voir un peu nos activités et nous faire venir éventuellement dans un centre de loisirs. Et il y a la partie astronomie avec en particulier ces cartes du ciel du mois. La plus facile de ces trois constellations à reconnaître, c'est le Cygne. En partant de Deneb, qui est sa queue, hein, d'où le nom arabe, Deneb, il faudra un jour qu'on parle des étoiles, des noms des étoiles dans cette chronique, je crois, on peut voir cinq étoiles qui forment comme une grande croix dans le ciel. La ligne la plus longue qui forme le corps de l'oiseau, de la queue Deneb jusqu'à la tête, et les deux bras latéraux figurent les ailes, dont on peut remarquer qu'elles se prolongent toutes deux légèrement inclinées vers l'arrière, avec deux étoiles supplémentaires de la constellation, mais légèrement moins brillantes que les cinq. J'ai voulu donner un petit aperçu du Cygne, Car j'ai parlé tout à l'heure des galaxies, surtout de la nôtre, la Voie lactée. Eh bien, dans un ciel bien noir de campagne, on peut voir en ce moment la trace laiteuse de la Voie lactée partir du Cygne, du côté de Deneb, et descendre jusque vers l'horizon sud, du côté d'Otarès, dans le Scorpion, dont j'ai parlé aussi. Cette trace claire qui barre tout le ciel est en fait une zone lumineuse contenant des milliards d'étoiles, trop faibles pour être distinguées à l'œil nu, car trop éloignées de nous. Et si on regarde attentivement, on la voit se scinder en deux dans le Cygne, avec la partie principale descendant vers l'horizon, mais aussi une autre extension dans le prolongement du corps du Cygne. Cette zone sombre qui la coupe en deux n'est pas une région contenant moins d'étoiles, mais c'est une région où les étoiles sont masquées par le gaz et la poussière qu'on trouve dans toutes les grandes galaxies et dont j'ai parlé à propos de la naissance et de la mort des étoiles.
Allez, les planètes.
Alors, les planètes. Pour Jupiter, hein, très brillante et très blanche dans le ciel, la meilleure période d'observation est passée car en début de nuit, elle est déjà bien descendue vers l'ouest pour aller se coucher. En ce moment, c'est vers 1h30 qu'elle se couche. Fin juillet, elle sera déjà très basse vers l'horizon dès l'arrivée de la nuit noire. Comme son opposition ne remonte qu'à environ un mois, moment où elle était la plus proche de la Terre, Mars est toujours bien brillante dans le ciel, au sud, en début de nuit. On la reconnaît à sa couleur orangée très marquée. Elle se couche vers 3h30 en ce moment, mais ce sera seulement vers 1h30 fin juillet. Plus à l'est, vers la gauche, à environ la largeur d'une main bras tendu, on trouve l'étoile brillante Antares qui a aussi une couleur orangée. À partir d'elle, on peut essayer de reconnaître la tête de sa constellation, le Scorpion, qui forme comme un éventail, avec 4 étoiles disposées en arc devant elle, hein, donc vers l'ouest. Un peu au-dessus, on remarque un point brillant et un peu jaunâtre, c'est la planète Saturne, dont Mars va se rapprocher progressivement au fil de l'été. Pour essayer de voir les anneaux de Saturne, une paire de jumelles ne suffit pas. Il faut un petit télescope, et j'invite par avance les auditeurs à profiter de ce spectacle en participant aux traditionnelles Nuits des Étoiles, qui auront lieu cette année les 5, 6 et 7 août. J'en reparlerai, je pense, lors de la prochaine chronique qui devrait être le 27 juillet. Mais je voulais déjà en dire un petit mot aujourd'hui, car j'ai reçu ce matin un mail de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, qui les organise, où elle nous annonce que malgré le succès populaire de cette manifestation qui rassemble plus de 100 000 personnes sur le terrain et existe depuis plus de 20 ans, le ministère de la Recherche ne s'associera plus à cette opération, ce qui risque de la mettre en péril dès l'édition 2017, faute d'un financement suffisant. Donc si je peux me permettre un de mes petits coups de gueule, hein, comme je fais de temps en temps sur votre antenne, il n'y a plus de sous pour l'éducation à la science, mais toujours plus d'argent pour le foot, ce qu'on peut voir à Bordeaux par exemple, ou la construction d'un planétarium digne de l'agglomération. Je rappelle que Bordeaux est la seule grande agglomération de France à ne pas avoir de planétarium. Donc la construction d'un tel planétarium aurait un coût dérisoire si on le compare à celui du tout nouveau stade imposé par l'Euro 2016. Comme disait Juvénal il y a presque 2000 ans, je traduis un petit peu sa pensée, il faut donner au peuple du pain et des jeux. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait fait d'énormes progrès depuis.
Ça c'est dit.
Voilà.
Voilà, mais c'est bien de le rappeler. Alors, Michel, j'allais vous poser la question justement dans la prochaine chronique, donc 27 juillet, et l'actu, la Nuit des Étoiles, hein, dont vous venez de dire.
Nuit des Étoiles, alors pour les auditeurs qui s'en rappellent peut-être, au départ ça s'appelait la Nuit des Étoiles filantes, parce qu'en été, à peu près de la mi-juillet à la mi-août, on voit ce qu'on appelle les perséides, donc plus d'étoiles filantes que d'habitude dans le ciel, et je pense que je reviendrai là-dessus lors de la prochaine chronique.
Très bien, puis on rappelle constellationsetgalaxies.org, le site internet.
Avec donc les informations sur le planétarium, hein, quelle place il faut pour l'installer, combien ça coûte, parce que malheureusement, pour nous aussi, il n'y a pas beaucoup de sous et c'est les clients qui doivent payer nos prestations. Une partie exposition, parce qu'en Dordogne, on fait tourner des expositions, mais ça ne concerne pas la Gironde et Bordeaux. Et enfin, la partie astronomie, avec entre autres une rubrique qui s'appelle le ciel du mois, dans laquelle on retrouve les cartes, ce qui permet de reconnaître les constellations, les planètes le soir. Et disons un petit peu plus d'informations sur l'actualité du ciel que ce que je fais ici. C'est un tout petit peu plus développé dans les pages web.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Michel, hein, chaque fois pour ce colossal travail. Mais voilà, toujours mené de main de maître et avec passion. Allez, on se retrouve le 27 juillet. Ce sera mercredi. Puis vous nous parlerez donc des nuits des étoiles. Allez.